Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours?
Des portraits?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, j'ai mappé la foule de
Strasson. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver?
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'émission Portrait sur Marmite FM 88.4. Notre invité du jour habite Trappes depuis près de 20 ans maintenant. Il vient de publier son dernier roman, Panique sur le porte-avions, un techno-thriller d'anticipation, c'est ainsi qu'il décrit son livre. Son nom, qui est un pseudonyme, Rick de Valaverny. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
On va débuter cet entretien avec une carte d'identité. Voilà, je vous pose des questions, voilà. Vous pouvez me répondre directement. Donc, votre nom?
Alors, Rick de Valaverny, c'est un pseudo. Je suis né dans l'Aisne, donc dans un petit hameau. Enfin, pas dans un petit hameau, mais mon grand-père est originaire d'un petit hameau qui s'appelle Valaverny, donc j'ai choisi ce pseudo. Et Rick pour Eric.
Et la date de naissance?
Alors, je suis né en 1960 à Soissons.
En 1960 à Soissons, ouais. Ville connue pour son vase.
Ouais, exact, ouais. Exact.
Donc ville de naissance.
Et c'est haricots aussi.
Et c'est haricots aussi, les haricots de Soissons, ouais. D'accord. Le métier des parents?
Alors, mon père était commerçant artisan dans les cycles, donc j'ai eu une mobilette très jeune, je bricolais dans l'atelier avec lui.
Ouais, déjà?
Ouais, et ma mère était secrétaire chez un géomètre.
C'est-à-dire chez un géomètre?
Un géomètre expert.
Ah, géomètre, d'accord, géomètre. Si j'ai un géomètre, d'accord, j'ai pas entendu. Vous avez des frères et sœurs?
Oui, j'ai un frère.
Un frère, grand frère, petit frère?
Petit frère qui faisait de l'informatique et qui s'est reconverti dans la menuiserie. Il était passionné par le bois.
Famille d'artisans?
Ouais, et d'artistes aussi. J'ai une tante qui fait de la peinture aussi.
Votre parcours scolaire?
Eh bien, après le bac, je suis allé en classe prépa et j'ai intégré une école d'ingénieurs, les arts et métiers. Donc
plutôt,
Chalon,
plutôt bon élève.
Oui, plutôt, oui. Et donc, ce qui fait que, avant mes études, j'écrivais beaucoup, je faisais des BD, ce qui fait qu'avec les études et la vie active comme ingénieur, on n'a pas le temps d'écrire, ni trop de dessiner ou de peindre. Donc, je me suis remis.
Vous allez trop vite.
D'accord.
On va parler de ça dans quelques instants. Matière préférée à l'école?
J'aimais bien un peu tout, mais ça dépendait des professeurs aussi. Bon, maths, physique, technologie. Bon, c'était quand même mes matières principales, celles que j'aimais le plus.
Alors, dès votre enfance, vous êtes doté d'une imagination débordante. Vous écrivez des œuvres de fiction, de bandes dessinées. Vous êtes passionné par les super-héros. Exact. Racontez-nous un peu cette enfance.
Donc, je pense que mon premier roman, j'ai dû l'écrire le lendemain où l'homme a marché sur la Lune en
1970, alors.
Non, 69.
Le lendemain. Le lendemain, d'accord. Ouais, pas l'année suivante. Oui, le lendemain, d'accord.
Et donc, j'ai commencé à écrire Voyage sur Mars en l'an 3000 sur mon petit cahier d'école parce que je m'étais dit, il faut aller plus loin. Donc, voilà. Et
vous étiez tout petit, vous aviez 9 ans.
Oui, j'avais 9 ans. Et donc, en parallèle, je dessinais beaucoup, je faisais des BD. Donc, j'inventais de nouvelles histoires de héros existants, genre Tarzan, Tintin, etc. Et j'ai essayé d'inventer aussi des nouveaux super-héros parce que je le lisais à l'époque, Strange. Avec les super-héros bien connus, Spider-Man, Iron Man, etc. Quoi.
Alors, vous venez de parler à l'instant du jour où l'homme a marché sur la Lune. Oui. Vous étiez devant un poste de télévision?
Oui, on m'avait réveillé la nuit, on était en famille sur un vieux poste en noir et blanc, et donc on avait vécu ça en direct.
Et qu'est-ce que ça vous a fait? Vous vous en souvenez, je suppose, parce que ça vous a marqué.
J'ai deux vagues souvenirs, des flashs, mais ce n'est pas un souvenir hyper précis. Quoi. Je sais que tout le monde était impressionné, on était content. Et donc, c'est pour ça que j'avais imaginé, en fait,
d'aller plus loin. Ouais. Suffisamment marquant pour que vous écriviez un livre, en tout cas.
Oui, exact.
Alors, quelques années plus tard, Rick de Valaverny, vous obtenez un diplôme d'ingénieur à l'École des arts et métiers.
Ouais.
Et vous commencez à travailler, ce qui met en quelque sorte un frein à votre... activité d'écriture ou votre activité artistique en général.
Exact. Pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, donc en région parisienne et sur Bordeaux aussi. Mmh. Et ensuite, par contre, j'ai eu une petite période de chômage au début des années 2000, où là, sur un an, j'ai commencé à écrire. Donc j'avais commencé à écrire une intrigue entre trois entreprises où il y avait des histoires de brevets, etc., des magouilles, et une autre dans le milieu de la bourse. Mais bon, après, j'ai retravaillé assez vite, et donc mes manuscrits sont toujours dans un tiroir. Peut-être que j'y ressortirai un jour.
Bah, finalement, vous vous déplacez beaucoup avec votre boulot. Passer de nombreuses nuits à l'hôtel, c'est l'occasion rêvée pour relancer un petit peu la machine. Peinture d'abord, écriture. Il y a beaucoup d'idées qui vont naître dans votre tête, mais pas forcément d'aboutissement.
Ouais, exact. Au début des années 2000, donc, j'ai commencé à refaire de la peinture. Et j'ai exposé même à Trappes pendant 5 ou 6 ans avec le club de Trappes, à la mairie ou dans la galerie Le Corbusier. Et donc, ensuite, quand je me suis mis à l'écriture, j'ai un peu moins peint.
Et qu'est-ce que vous peignez alors?
Alors, j'aimais beaucoup. Alors, j'ai peint les portraits de toute la famille, des amis, etc. Et j'aimais beaucoup peindre des portraits sur un fond surréaliste. Donc, sur mon site Facebook, je pourrais mettre quelques exemples.
Pour les auditeurs qui
souhaiteraient voir. Et je fais les couvertures de mes livres moi-même. Donc, je prends des photos, je les retouche un peu sur des logiciels, etc.
Alors, jusqu'au jour où finalement vous publiez ce premier roman auto-édité que vous proposez en e-book et en impression à la demande, Le Combat de Thalia. Exact. Donc, c'est une trilogie dystopique. Alors, racontez-nous un petit peu comment est venue l'idée de faire une trilogie où les femmes prennent le pouvoir.
Ok. Alors, déjà, pourquoi une dystopie? Ma fille en avait plusieurs, donc j'avais lu ses livres. Et bon, ça me plaisait, ça lui plaisait aussi, donc je lui ai dit, tiens, je vais t'en écrire une.
Vous êtes inspiré des bouquins que lisait votre fille.
Exact. Et donc, et pourquoi les femmes au pouvoir? Excusez-moi. Parce que j'imaginais qu'il y avait une guerre civile à la fin des années 2020, et donc les hommes s'entretuent, mais pas les femmes. Et au moment où elles sortent de chez elles, qu'est-ce qui va se passer? Elles s'aperçoivent qu'elles sont 10 fois plus nombreuses, et donc elles prennent le pouvoir, et elles recréent un monde matriarcal où elles dirigent tout. Alors au début, elles voulaient une utopie sans guerre, sans religion, sans racisme, un peu idéal, quoi. Mais on s'aperçoit que c'est pas idéal pour tout le monde, et donc les hommes vont s'apercevoir qu'ils sont un petit peu esclaves de la société. Donc, petit à petit, ils vont créer un réseau de résistants autour de chaque ville dirigé par les femmes et ils vont se rebeller en attaquant leur quartier général qui se trouve au centre de chaque ville.
Oui, parce que les hommes sont cantonnés au rôle de travailleurs un peu forcés, ils travaillent dans les champs notamment, ou de reproduction, de reproducteurs.
Ouais, exact. Et oui, donc au début, il n'y a plus de notion de famille, ils vont de cité en cité pour éviter la consanguinité, ils font les gros travaux parce qu'il n'y a plus d'industrie, plus d'électricité. Donc c'est un monde très dur et artisanal, quoi.
Alors ce sont des ouvrages auto-édités, donc les premiers que vous éditez, cette trilogie Le Combat de Thalia. Une fois qu'ils sont imprimés, qu'ils sont édités, qu'est-ce que vous faites? Après, vous vous baladez un petit peu partout, à Saint-Quentin en Yvelines ou en France, pour essayer de faire connaître vos ouvrages. Comment vous communiquez après dessus?
Exact, oui. Donc, alors au début, ils étaient mis en vente automatiquement sur Amazon parce que la filiale qui me les imprimait, c'était une filiale d'Amazon. Et par contre, en 6 mois, j'ai vu que personne ne connaissait, donc j'en vendais aucun. Donc finalement, j'en ai commandé pour moi-même des exemplaires et je réalise des séances de dédicace depuis 2 ans dans tous les magasins de la région, les hypermarchés, les Cultura, le Furet du Nord à Sky West, etc.
Voilà, donc vous devez être vraiment actif, proactif en tout cas pour faire connaître.
Sinon on vend rien et on n'est pas connu, quoi. Par contre, les gens m'achètent souvent le tome 1 parce que je suis pas connu comme quelqu'un qui passera à la télé sans arrêt, quoi. Et donc après, si ça leur plaît, soit ils me recontactent directement s'ils sont pas loin de chez moi, soit ils attendent une autre séance de dédicace, soit ils peuvent le commander sur internet, ce qui est très pratique pour l'avoir dans le monde entier, quoi.
Alors justement, vous écrivez de nombreux ouvrages jusqu'à ce dernier que vous êtes venu présenter aujourd'hui, qui est sorti en juin, si je ne dis pas de bêtises. En juin dernier, juin 2019. Panique sur le porte-avions. C'est un techno-thriller d'anticipation. C'est comme ça que vous le définissez. Alors, c'est quoi un techno-thriller d'anticipation?
Alors, un techno-thriller, il y a peut-être plusieurs définitions, mais disons que c'est un roman contemporain où il y a beaucoup de héros qui vont avoir des actions héroïques pour sauver leur pays, pour sauver des gens, par exemple. Il y a beaucoup de technologies, un peu d'armement. Donc c'est un roman assez moderne et qui anticipe très légèrement sur l'actualité. Donc c'est pour ça que dans mon livre, qui se passe dans quelques années, je peux inventer des choses qui n'existent pas encore. Mmh. Donc c'est à la fois un roman très réaliste qui peut se passer avec des acteurs actuels, hein, les présidents, des hommes politiques, etc., les pays existants, mais imaginé dans un futur très proche.
Mmh. Alors vous êtes fan du romancier américain Tom Clancy, qui ouais. Peut-être a popularisé le techno-thriller. Il était notamment connu pour parfaitement documenter ses ouvrages, notamment dans le domaine militaire, ou de l'espionnage également. Il a aussi écrit sur un sous-marin.
Un sous-marin.
Peut-être que c'est une erreur que je fais. Oui, c'est sur un sous-marin. Alors c'est une source d'inspiration pour vous ?
Disons que bon, je suis peut-être pas encore à son niveau. Hein, il a écrit 40 romans au moins, mais donc j'essaye d'être le plus précis possible, de me documenter. Dans mon dernier tome, il y a quand même la Corée du Nord, c'est pas évident, mais j'ai réussi à quand même trouver des renseignements.
Vous voulez nous dire que vous n'êtes pas allé encore
en Corée du Nord ? Je suis pas allé sur place, mais j'ai trouvé pas mal de renseignements quand même sur Internet en fouillant bien. Et donc je pense que c'est assez réaliste. Enfin, si on croit à l'intrigue préliminaire, quoi, ce qui se passe en 2020, quoi.
Alors ça, c'est sur la Corée du Nord, mais sur ce dernier ouvrage, mais sur les autres ouvrages, comment vous faites pour vous renseigner et pour essayer de coller le plus près possible au réel et donner surtout des vraies informations. C'est-à-dire quand vous décrivez une arme ou que vous décrivez, je ne sais pas, une technologie, elle est bien réelle, elle existe en tout cas.
Oui, exact. Oui. Moi, j'ai travaillé pas mal d'années dans l'armement et dans l'aéronautique, donc j'ai pas mal de données techniques déjà. Pour les lieux, j'habite, la trilogie se passe essentiellement dans ma région d'origine, donc je connais par cœur les petites rues, les cathédrales,
Soissons,
Lens, Saint-Quentin, etc. Donc c'est très réaliste, les gens me demandent quand est-ce qu'on fait le film, parce que ça se passe devant chez eux, quoi. Ils s'y croient vraiment, ils pourraient même jouer dans le film, quoi. Donc voilà, et j'essaye d'être précis, de relire plusieurs fois mon roman. Alors à chaque fois que je refais un tome, je relis les précédents pour éviter de faire des incohérences. Quand vous tuez quelqu'un dans un roman, il ne faut pas qu'il réapparaisse après.
Sauf si c'est un mort-vivant, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas, ouais.
Alors justement, pourquoi avoir choisi de faire votre intrigue sur un porte-avions, en tout cas panique sur un porte-avions. Vous avez vous-même travaillé sur un porte-avions d'ailleurs.
Je travaillais dans une société qui travaille dans l'armement. Enfin, j'étais sous-traitant de MBDA et donc je suis allé avec eux pendant une semaine sur le porte-avions pour mettre au point des équipements militaires, quoi. Des missiles. Et donc, à l'époque, on était beaucoup de civils dessus, on pouvait se balader un peu partout, donc je connais un petit peu pas mal de détails qu'on ne voit pas à la télé, quoi. Et donc, c'est assez crédible, même si je ne donne pas de choses confidentielles quand même.
Alors, vous dites ça de manière très détachée. J'ai travaillé sur un porte-avions, on préparait des missiles. Ça paraît assez. C'est comme quelque chose qu'on a rarement au micro ou même dans les médias. Les médias mainstream, comme on dit, on a rarement des personnes qui ont travaillé dans l'armement ou qui ont travaillé dans l'espionnage. Quoique, on a souvent des anciens espions qui viennent témoigner maintenant dans les chaînes d'information. Mais voilà, puisque vous êtes certainement tenu au secret défense. Alors comment vous pouvez justement jongler et arriver à mettre, à tenir en haleine aussi le lecteur en lui donnant des choses crédibles, en donnant des informations, mais sans trop en dire. Est-ce que c'est une contrainte pour vous ?
Bah oui, il faut faire attention. Donc tout ce que je mets dans le roman, je regarde si déjà ça existe sur Internet. Donc les gens qui connaissent rien, ils vont apprendre plein de choses parce qu'on va pas piocher sur Internet exprès pour avoir telle information quand on sait pas qu'elle existe. Mais je n'ai rien donné qui puisse être visible directement sur Internet ou dans des documents que tout le monde peut avoir. Il n'y a pas de dossier secret défense ni rien d'autre. Et c'est vrai que vous parliez de l'expérience sur le porte-avions. C'est vrai que plus de 10 ans après, j'y pense encore, quoi. C'est quand même impressionnant quand on est dessus pendant une semaine, même si on n'est pas en temps de guerre, quoi. C'est...
Oui, et qu'on sait que ça va peut-être potentiellement servir.
Ouais.
Oui, parce que pour rejoindre votre passion de Tom Clancy, est-ce que dans les ouvrages que vous écrivez, vous pensez que des choses vont vraiment se passer ? Parce que vous connaissez certainement l'histoire... d'un des ouvrages de Tom Clancy où un avion, c'est un acte terroriste, un avion est projeté, je crois que c'est sur le Capitole, pour Tom Clancy, et que voilà, le 11 septembre 2001, après le 11 septembre 2001, il y avait eu un regain d'intérêt pour ses ouvrages en disant que là, c'était un peu, bon, pas prémonitoire forcément, mais bon, que certains auraient pu s'inspirer des ouvrages de Tom Clancy pour le 11 septembre notamment.
Ouais, le roman dont vous parlez, c'était même dans les années 90, donc c'était largement avant les tours, ouais. Bah, il a même imaginé un président noir au pouvoir avant qu'il y ait Obama. Il a imaginé plein de choses qui sont déroulées. Il a même une deuxième série qui s'appelle NetForce, où dans les années, début des années 90, l'action se passait en 2010. Il y avait déjà tous les smartphones, etc. Donc il anticipait vraiment pas mal d'années avant.
Donc c'était assez juste. Donc, il avait mis des choses. Ouais, ouais. Et pour vous, justement.
Bah, moi, j'essaye d'imaginer...
Qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir... voilà, là, vous parliez de la Corée du Nord et notamment d'une attaque qu'ils veulent faire mener contre les États-Unis. On ne détaille pas tout pour laisser un peu de suspense pour les lecteurs. Mais voilà, est-ce que vous pensez que ça peut se passer? Et si ça se passait, voilà, qu'est-ce que vous dites?
Non, de cette façon-là, je ne pense pas. Parce que, bon, techniquement, je ne sais pas si c'est possible. C'est limite possible, quoi. Mm-hmm. Donc, bah, dans un roman, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais disons que c'est possible, mais improbable. Je ne pense pas que ça se passerait de cette façon-là, quoi.
Vous êtes un auteur prolixe, hein, si on peut dire, puisque vous écrivez comme vous parlez, peut-être, j'ai envie de dire. Hein, vous êtes... vous avez produit beaucoup d'ouvrages en très peu d'années. Quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes déjà sur un projet?
Alors en ce moment, depuis 2-3 mois, je ne savais pas lequel commencer parce que j'ai plein d'idées pour la suite.
Ouais.
J'hésitais entre deux romans. Donc là, en fait, j'ai noté pas mal d'idées depuis les vacances. Et là, j'ai commencé un préquel donc, qui va se passer à la fin des années 20, un petit peu avant la guerre civile que j'imagine. Et avec un de mes personnages qui est la tortionnaire des souterrains de la cathédrale en 2059. Donc elle est très jeune et elle a eu une enfance un peu tourmentée, quoi. Elle était un peu introvertie, elle disséquait les animaux, elle a tué ses parents au cours de la guerre.
C'est très sympa tout ça.
Ça va être un roman un peu assez sombre. Voilà. Donc, puis j'en ai d'autres qui vont se passer dans les années 20. Donc ça va être d'autres missions pour Stella, qui est un des personnages importants qui est dans Cascadia et dans Panique sur le porte-avions, où elle va vivre d'autres aventures. Alors ça, je peux le dire, elle subit des modifications génétiques, c'est dans le premier chapitre de Cascadia, donc c'est pas vraiment un secret. Et donc après, elle subit un super entraînement militaire pendant 5 ans, et donc elle a quasiment l'équivalent de 10 ou 20 ans d'expérience d'un marine ou d'un SEAL, et donc elle est super costaud.
Donc elle est redoutable.
Ouais, elle est redoutable, ouais.
On va en apprendre aussi un petit peu plus sur vous, Rick de Valaverny, en lisant votre petite bio. Voilà, j'ai appris que vous étiez Gads artiste.
Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est un Gads artiste pour les auditrices, les auditeurs qui
Alors un Gads art, c'est un élève qui a fait les arts et métiers. Et un Gads artiste, donc c'est un membre d'une association, semi-professionnelle, qui a été créée avec tous les peintres, les écrivains, les sculpteurs, les artisans d'art. Et d'autres, j'en oublie peut-être, les photographes, etc. Donc tous les artistes de la société. Alors donc dans la société des anciens élèves, on est plus de 20 000. Et donc on est quand même plusieurs centaines à pratiquer un art quelconque, quoi.
On peut peut-être dire en quelques mots en quoi consiste l'école des arts et métiers. Hein, puisque vous, votre formation d'ingénieur, voilà, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites après concrètement en sortant de cette école?
Moi je suis sorti en 84, donc depuis je pense qu'il y a des nouvelles techniques, on fait peut-être beaucoup plus d'électronique, d'informatique, etc. Mais disons que la base à l'époque c'était quand même une école à dominante mécanique pour des ingénieurs qui travaillent dans l'industrie.
D'accord.
Donc ça peut être dans l'automobile, l'aéronautique, la défense, l'industrie en général. Mais vous pouvez regarder sur l'annuaire, dans les professions, il y a un peu toutes sortes de professions. Il y en a même qui divergent un peu dans des professions annexes, qui créent leur entreprise, etc., dans plusieurs domaines. Une fois qu'on a un bon bagage technique, bon, après, on fait un peu ce qu'on veut.
Vous avez dû vivre aussi la révolution numérique,
ouais,
puisque vous êtes diplômé en 1984, entre 1984 et 2000 déjà, où vous écrivez certains de ces ouvrages, et maintenant 2019, c'est une véritable révolution que vous avez... que vous avez vécu.
Ouais, exact. À l'école, nous, on programmait encore en Fortran, donc c'était
un gros ordinateur.
Ouais, un gros ordinateur avec des cartes, etc. Donc depuis, Bah, quand vous avez un ordi chez vous, maintenant, il est mille fois plus puissant que les gros ordinateurs de l'époque. Quoi. Mmh. Donc, bah, moi, j'écris sur ordinateur aussi. Tant qu'on parle de ça, c'est quand même plus pratique que d'écrire à la main. On corrige en temps réel.
Sur une machine à écrire.
Non. En 2000, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais commencé à faire des manuscrits au début 2000. Mais là, j'écrivais à la main sur un cahier. Mais bon, maintenant, c'est quand même beaucoup plus pratique d'écrire sur un ordinateur. Hein. La mise en page est faite, etc. Surtout quand on est autoédité. Donc, à partir du logiciel de traitement de texte, je fais un PDF, je l'envoie sur le site et c'est prêt.
Et c'est beaucoup plus simple.
Pour imprimer. Quoi, ouais.
Alors, on le disait à l'instant, vous êtes donc Gads Artist, mais vous êtes également, faites également partie du Mensa. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce.
Mensa.
Du Mensa. Alors, dites-nous ce que c'est le Mensa.
Alors, Mensa, c'est une association.
Ça m'a fait sourire de voir la petite définition avec des personnes, je crois, à haut potentiel intellectuel. C'est
ouais,
ça
ouais, en fait, bon, disons que ça mesure, je pense, une vivacité d'esprit. Un peu sur un ordinateur, si vous mesurez la vitesse de la puce électronique. Quoi. Et donc, ben, c'est une association loi 1901 qui a été créée, je ne sais plus quand, mais il y a pas mal de décennies. Donc en France, on doit être dans les 2-3 000. Ce n'est pas encore très développé, alors que le potentiel, c'est 2% de la population. Donc on pourrait être pas loin d'un million bientôt, quoi.
Et il regroupe quel genre de personnes? Sur quels critères
Il faut passer des tests. Moi, j'ai passé ça il y a plus de... c'était en 89, il y a une trentaine d'années. Et donc, je pense que tous les mois, dans chaque région, vous pouvez passer des tests. Ça dure 2 ou 3 heures. Et si vous êtes au-dessus d'un certain niveau, alors sur une échelle de... Je ne sais plus comment s'appelle le psychologue qui a créé ça, mais il faut être au supérieur à 132. Donc, c'est...
On parle de QI, là.
Ouais, de QI. Ouais. Ouais. Rien à voir avec le quotient émotionnel. D'ailleurs, on peut perdre pas mal de points de QI si on est un peu émotif, je pense.
Un peu émotif ouais. Alors, à partir de quel moment on dit que quelqu'un est très intelligent?
Bah, Mensa, c'est 2%. Donc, mais bon, pour les génies purs, c'est peut-être, je pense, 0,1 ou 0,01% de la population. À Mensa, bon, c'est quand même des gens comme moi... pas forcément qui ont fait des études. Hein. On peut être intelligent et louper ses études. Hein. On peut être un peu marginal, etc. Donc, il n'y a pas que des ingénieurs. Quoi. Il peut y avoir toutes sortes de professions.
Les auditrices, les auditeurs auront compris donc que vous avez un super QI. C'est ce que vous êtes en train de nous dire également.
Peut-être. À vérifier.
À vérifier. Ça vous a servi dans la vie?
Je ne sais pas, en fait. Ça m'a peut-être servi dans certains cas ou desservi dans d'autres. Parce que bon, réfléchir trop vite, des fois, c'est peut-être pas bien. Je crois que même, il y a certaines professions aux USA où ils limitent le QI. Je crois que j'avais lu un article, les policiers aux USA, ils doivent pas avoir au-dessus d'un certain QI. je blague pas. C'est... Voilà, donc...
pas trop d'intelligence dans la police américaine, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Pas de génie, quoi, disons. Assez intelligent pour réfléchir dans toutes les situations, mais pas... En fait, je pense que c'est pour s'adapter aux gens qui doivent arrêter, etc. Quoi.
Et pour terminer, qu'est-ce que vous faites dans cette association Mensa? Mensa.
Parce qu'on
on sait qui est dedans maintenant, mais qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez
Je suis toujours inscrit, parce qu'on s'inscrit par Internet, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé à des réunions. Par contre, j'y allais plus souvent quand c'était à Bordeaux, parce que c'était plus proche de chez moi. J'étais peut-être moins casanier aussi. On se réunissait tous les mois. Il y avait souvent une conférence d'organiser avec un scientifique ou quelqu'un qui s'y connaissait dans un domaine particulier. Ça pouvait être n'importe quoi. L'astrophysique, l'œnologie, un peu de tout. Et après, on faisait un repas et on discutait entre nous, quoi. Mais bon, sur Paris, il y a pas mal de choses organisées, mais bon... Je deviens casanier, je passe une heure de bouchon pour y aller le soir, etc. Donc.
On va terminer par une question un peu provocante, Rick de Val-Averny. Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi? Donc vous êtes au chômage?
Oui, je suis au chômage, donc je recherche depuis que j'écris. Alors pendant un an, j'ai cherché à fond. C'était en 2015-2016. Bon, comme je ne trouvais pas, j'avais l'impression de perdre mon temps, donc je me suis dit, en parallèle, je vais quand même écrire. Donc, ça fait que je fais les deux activités. Mais bon, j'ai 59 ans, les gens... Bon, je ne le mets pas sur mon CV, donc...
C'est difficile de retrouver
un emploi. Ils savent que je peux être entraîné dans 2-3 ans. Alors, depuis 2010, oui, j'ai eu quand même pas mal de missions intéressantes. Je n'ai pas eu de CDI, mais j'ai eu des CDD d'un an et demi dans des entreprises du coin. Donc, à chaque fois, c'est des missions intéressantes où j'apprends pas mal de choses. Mais disons que ce n'est pas pour le long terme.
Alors, la question provocante, justement, elle arrive un petit peu, puisque la dernière fois que vous avez écrit, que vous avez écrit des bouquins, même s'ils n'ont pas forcément été publiés, c'était quand vous étiez au chômage, déjà au début des années 2000.
Oui, exact, vers 2000-2001. Ouais.
Là, vous êtes au chômage depuis quelques temps, vous n'avez jamais été aussi prolixe, aussi efficace dans l'écriture. Donc finalement, le chômage vous réussit.
Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça, mais disons que c'est une expérience intéressante.
Et ça quand vous permet d'avoir du temps.
Ouais. Et puis quand on voit les réactions des gens, la semaine dernière, j'ai même une dame qui m'a arrêté, qui est venue me voir, qui a fait 5 caisses pour venir me voir à la caisse du Leclerc pour me dire « Super, votre Thomas, j'ai acheté... »
J'avais été reconnu.
Deux jours après, j'ai acheté la suite, etc. Ouais, voilà.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, Rick de Valaverny, pour l'avenir?
Vous pouvez me souhaiter de continuer à écrire des choses qui plaisent à mes lecteurs. Et puis, je ne sais pas, souhaitez-moi ce que vous voulez.
Encore beaucoup d'ouvrages. Et justement, où est-ce qu'on peut se les procurer, ces ouvrages? Et notamment, Panique sur le porte-avions, qui est votre dernier, mais même les autres, Le combat de Thalia, notamment cette trilogie.
Alors maintenant, comme je commence à avoir pas mal de fans dans le coin, j'en laisse dans plusieurs magasins où je dédicace. Alors j'en ai laissé au Cultura de Plaisir, j'en ai laissé au Cultura d'Embouillé, j'en ai laissé au Leclerc de Bois d'Arcy, au Cultura de Vilaine, je crois. Et donc les gens sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ils peuvent me contacter directement sur le site, je peux leur vendre directement.
Et le site, nous donne l'adresse une
dernière. Vous tapez Rick de Valaverny sur un moteur de recherche, vous trouverez mon site Facebook directement, vous cliquez dessus, ou mon blog si vous n'avez pas de compte Facebook.
Ce sera l'occasion.
Ou alors mon email est disponible
aussi sur le blog.
Sur le blog, oui. Ouais.
Merci Rick de Valaverny d'être venu au micro de Marmite FM.
Merci de m'avoir reçu et peut-être à la prochaine fois pour mon prochain roman.
Avec plaisir.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Anne.